Le business.
Business of bouffe.
Business of bouffe.
C'est la culture de la bouffe. Toi, tu peux dire le mot bouffe.
Business of bouffe.
Dans le business of bouffe, c'est comme ça qu'on dit ici.
On assume complètement le mot bouffe ici.
Je suis très content de dire bouffe.
Je suis Philibert Chambre, entrepreneur et fondateur de Business of Bouffe, le podcast où on parle bouffe avec un angle business. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Alors, est-ce nécessaire de présenter mon co-animateur aujourd'hui? Tout le monde le connaît dans le business de la bouffe, il est l'un des critiques gastronomiques les plus réputés de sa génération, il officie depuis plus de 30 ans au Figaro, notamment au Figaroscope. Il est également rédacteur en chef du magazine Geste et cofondateur d'ACAB, le cabinet de conseil dédié au restaurant. Je suis avec Emmanuel Rubin. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Alors Emmanuel, aujourd'hui nous recevons une nouvelle fois un très grand chef français. Il est un peu à part dans le paysage gastronomique. Il tutoie les sommets avec sa troisième étoile depuis 1996. C'est surtout un chef ultra créatif, passionné d'art en tout genre. Il est obsédé par la création et l'idée de sans cesse remettre en question. Cela fait de lui un audacieux hors du commun et un grand visionnaire. Nous sommes avec Alain Passard, le chef et propriétaire du restaurant L'Arpège à Paris. Bonjour Alain.
Bonjour.
Alors Alain, Emmanuel, je vous propose d'organiser notre discussion aujourd'hui en quatre chapitres, comme on commence à en avoir l'habitude dans Business of Bouffe. Dans un premier temps, Alain, on va évidemment revenir sur ton parcours, de ta petite enfance en Bretagne aux grandes maisons où tu as fait tes armes. On cherchera à comprendre tes inspirations profondes et ce qui fait le chef singulier que tu es aujourd'hui. Dans un second chapitre, on s'intéressera à l'ouverture et au développement de ton propre restaurant L'Arpège où nous sommes aujourd'hui. Et dans un troisième temps, on évoquera évidemment ce grand virage dans les années 2000 où tu décides d'arrêter la viande et d'orienter ta cuisine vers le végétal. Quelle audace à cette époque et quelle vision incroyable. Cette partie s'annonce passionnante. Et enfin, dans un dernier chapitre, on s'intéressera à ta vision de la gastronomie d'aujourd'hui et de demain. Tu avais 20 ans d'avance dans les années 2000. On se dit que tu as forcément des choses passionnantes et pertinentes à partager avec nous aujourd'hui. Bref, une nouvelle fois un programme riche et alléchant. On y va Alain, Emmanuel ?
Parti !
Donc, ouvrons le premier chapitre et parlons de tes débuts. Mais avant cela, Alain, est-ce que tu pourrais te présenter en deux mots avec tes mots, sachant qu'on a évidemment tout le temps du podcast pour revenir sur ton parcours?
Alors, donc, nous sommes à L'Arpège, hein, 84 rue de Varennes. Donc, moi, j'ai eu la chance de mettre le doigt sur un métier passion qui est la cuisine. Donc, je suis un cuisinier et je me régale parce que chaque jour est le premier jour. Il n'y a pas de lassitude. C'est toujours avec énormément d'enthousiasme ce que j'ai d'être avec mes équipes en cuisine, dans les jardins. Non, c'est... Ouais, c'est une belle histoire.
Et tu dis ça avec le sourire, donc on a hâte de découvrir tout ça. Et on a une question rituelle dans Business of Bouffe. Pourquoi la bouffe?
Pourquoi la cuisine?
Pourquoi la bouffe? Pourquoi la cuisine?
Pourquoi la cuisine? Ben, j'ai eu la chance de grandir dans une famille et dans une région assez gourmande.
Ouais.
Hein, donc en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, dans un petit village qui s'appelle La Guerche de Bretagne, où il y avait plein de bons artisans. J'ai vécu au milieu de tout ça. Il y avait des très bons boulangers, des très bons pâtissiers, des très bons charcutiers, très bons bouchers, des très bons restaurants. J'avais une grand-mère qui faisait très bien la cuisine.
Ouais.
J'ai passé beaucoup de temps avec elle. À côté de ça, j'ai eu la chance aussi de grandir dans une famille un peu artistique parce que mon père était musicien.
D'accord.
Ma mère était passionnée de couture. Et j'avais un grand-père qui était rôtinier,
qui fait des meubles en rotin, c'est ça?
Ouais.
Des
objets en rotin et il sculptait le bois. Donc, en fin de compte, j'ai vécu au milieu de tout ça. Donc, j'allais voir mon grand-père, il travaillait un morceau de bois. J'allais voir ma grand-mère, elle était en train de faire une terrine.
Ouais.
Mon père qui jouait du saxo, de la clarinette et de la batterie. Ma mère qui avait dans la cuisine tous ses tissus, ses patrons, les craies et tout ça. Et donc, j'ai eu très tôt envie de me servir de mes mains.
Voilà.
Et donc, comme j'étais gourmand, c'est la grand-mère qui a été, choisie.
Vous auriez pu être rôtinier? Musicien, mais vous faites de la musique, je crois.
Oui, absolument. Ouais, j'ai appris un peu. Mon père m'a enseigné, mais je crois que la cuisine m'a séduit par la beauté du costume du cuisinier.
D'accord.
Et c'est très drôle parce que
l'esthétisme, le visuel d'abord.
Ouais, c'est parce que donc j'habitais dans ce petit village de la Guerche là et avec mes parents, on habitait à côté d'un très grand pâtissier, très bon pâtissier. Et donc je vivais au rythme un petit peu des du fournil avec le bruit des batteurs, des pétrins, les parfums des brioches qui sortaient du four, tout ça. Et puis ben je voyais effectivement tous ces jeunes pâtissiers que je trouvais très élégants, très beaux, avec ce pantalon pied de poule, la veste blanche, le calot, le tour de cou, le tablier. Et puis mais c'est très drôle hein cette histoire parce que je m'en souviens comme
si c'était hier.
Ouais. Je vois le moment de la journée où c'était. C'était en fin de journée dans la rue. Et comme tous les jours, les pâtissiers, les jeunes pâtissiers sortent dehors pour...
C'est la coupure, quoi.
C'est la coupure. Et je vois cette scène. Il y avait une belle lumière dans la rue. C'était très beau. Mmh. Et j'avais 13 ans. Hein,
ouais.
Et je me dis, c'est ça que je veux faire.
Donc là, t'as déjà la vocation qui
c'est
naît à ce moment-là.
Ça vient de l'uniforme.
Et c'est ça.
C'est-à-dire que si on imagine que vous viviez dans une ville de garnison, par exemple, de légionnaire,
ouais.
On n'aurait pas ça, lieutenant-colonel de la Légion aujourd'hui.
On a un général aujourd'hui, ouais, heureusement. Ouais. Pour nous, ce n'est pas le cas, même si on respecte les généraux, évidemment.
Ouais. Donc voilà un petit peu le...
La bouffe, ouais, c'est ça. Ça vient de l'artisanat, du geste, du vêtement d'ailleurs, de l'esthétisme.
Ouais.
Et puis, tu l'as dit, il y a cette grand-mère.
Ouais, ma grand-mère.
Qui joue un rôle clé. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle faisait et comment elle t'a transmis cette passion pour la bouffe au-delà de ce que tu viens de nous dire?
Donc, elle n'avait pas de restaurant. Hein. Elle travaillait dans un restaurant elle avait une façon de m'expliquer les choses. Elle avait une passion pour le feu. C'était un très grand rôtisseur.
Ah,
et donc, elle m'a enseigné un petit peu la puissance de la flamme. Elle m'a appris à l'apprivoiser, à la dompter, à éviter la brûlure sur le gigot et tout ça, quoi. Et on parlait beaucoup, bien sûr, qu'on avait le jardin, hein, donc où on allait quand même régulièrement. Et ça s'est fait tout naturellement. Bon, tous ces moments qu'on a passés ensemble m'ont invité quelque part.
Mais vous posiez des questions parce que souvent, beaucoup de chefs, pas que des chefs, disent « j'observais ma mère, ma grand-mère en train de cuisiner ». Mais est-ce que vous posiez, il y avait un échange, est-ce que très tôt, ça allait au-delà de l'observation et justement, vous disiez « comment on fait ça, comment on fait ci », est-ce que vous mettiez la main à la pâte?
Ah oui, moi je participais à tout ce qu'elle faisait, bien sûr. Hein, et je l'interrogeais sur plein de choses. Et d'ailleurs, parfois, j'allais même un petit peu trop loin. Donc,
dans la cour, va jouer.
Elle te reprenait.
Dans mon imagination, mais oui, absolument. On avait un vrai dialogue. Et puis, c'était surtout un personnage très qui avait énormément de convivialité. C'était une femme qui adorait recevoir. C'était une femme qui chantait dans sa cuisine et on échangea à travers tout ça. C'était des moments de cuisine mais aussi des moments de plaisir. J'allais au marché avec elle, donc elle m'a beaucoup appris sur le produit, sur la saisonnalité bien sûr. Et quand on décidait d'aller voir son boucher, c'était un moment important. Elle avait l'œil. Bon, elle savait. Puis bon, les fournisseurs savaient, ils savaient que bon, quand
fallait pas rigoler avec elle, fallait lui donner les meilleurs produits.
Ouais.
Elle aimait. Donc déjà le sens du produit. Toi, tu dirais que t'étais doué déjà. Est-ce que tu sentais que t'avais des prédispositions ou c'était juste une passion d'abord?
Non, la cuisine pour moi, ça a été une véritable rencontre. Et dans cette rencontre, il y a énormément de retenue. Ouais. C'est-à-dire que je savais pas du tout où j'allais. Il y avait une chose que je savais, c'est que j'avais mis le doigt sur quelque chose qui allait me plaire.
Ouais.
Maintenant, après, tu sais pas. Moi, j'ai eu après une grande chance dans ma vie.
C'est vous qui demandiez à devenir cuisinier? Parce qu'en parallèle, vous allez à l'école quand même.
Ah oui. Ah, oui,
et donc, vous, à un moment donné, vous dites quoi à vos parents? Vous leur dites, fini l'école?
Ah ben non, j'ai dit à mes parents, à l'époque, l'école était obligatoire, je crois, jusqu'à 16 ans. Et donc, j'avais réussi à avoir une dérogation pour pouvoir quitter l'école plus tôt, tellement j'avais cette envie de rentrer d'abord dans une entreprise et puis de pratiquer, quoi. J'avais envie de me servir de mes mains.
Ouais.
J'avais envie de créer, de faire quelque chose, donc ça s'est fait tout naturellement. Alors après, bon, c'était plus compliqué parce que bon, mes parents n'étant pas du métier, il fallait trouver un maître d'apprentissage.
Donc là, on a compris que tu voulais en faire ton métier, mais est-ce que tu avais une vision de vraiment d'être chef et d'être un grand chef ou ça s'est vraiment venu plus tard?
Ambition, non. Ce que je savais, c'est que j'étais un travailleur.
Ouais, ça c'est quelque chose qu'on trouve souvent chez nos invités, des très 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 jeunes.
Ouais.
Enfin, sauf si t'as une question, Emmanuel.
Non. Oh, voilà. Allons-y.
Ce que j'allais dire. Quelle est ta formation, l'apprentissage, comment ça se déroule, les premières grandes étapes?
Alors,
14 ans, je crois.
Donc, mes parents, donc très très embêtés, cuisiniers, mais on passe par.
Ça fait pas. Oui, ils n'ont pas les codes.
On connaît pas les chefs, on connaît personne. Donc, on prend. Donc, mes parents prennent les petites annonces du journal local, Ouest-France. Et dans les petites annonces, il y a une annonce qui est Hôtellerie du Lion d'Or à Liffré cherche apprenti cuisinier.
Tu vas pas au lycée hôtelier en fait directement ou en apprentissage
direct
à la dure.
Ah oui, tout à fait.
Ouais, tu vas être confronté à la réalité. Ouais.
Et donc on voit cette annonce. Mes parents me disent écoute, on va appeler, on va prendre rendez-vous, on va voir un petit peu. On connaît pas cette hôtellerie, donc
c'est loin de chez toi, Liffré, c'est où
par rapport à... C'est 50 km de la Guerche. Mmh. Et donc on prend rendez-vous pour aller voir le chef et son épouse. Et donc, on arrive dans cette très, très belle hôtellerie, dans ce petit village de Liffré, là, et on nous reçoit très bien sûr. Donc voilà, notre fils veut être cuisinier, donc on a vu votre annonce. Donc, et donc, je ne savais pas que j'étais chez le plus grand chef de Bretagne et un des meilleurs chefs de France.
Michel Kyrever, c'est voilà. Ça.
Il y a une petite anecdote, je ne sais pas si c'est vrai, il paraîtrait que votre maman, avant de franchir les portes de l'auberge, serait allée dans les cafés du village pour demander quelle était la réputation de ce Michel Kyrever. Pour savoir avant il avait belle réputation, c'est vrai.
Elle veut vérifier,
c'est vrai. C'est vrai. Mes parents étaient allés boire un café dans le petit café du village pour savoir un peu où.
Elle menait son enquête.
Ouais. Et apparemment, il avait bonne réputation, ce Michel Kyrever.
Oui, c'était. Nous, on savait pas qu'il y avait un guide qui s'appelait Michelin qui donnait des étoiles et tout ça.
C'est là où tu rentres et tu mets le doigt dedans. Et bon.
Donc après, j'ai compris quoi. Et donc je suis resté avec lui.
Combien de temps? Comment ça se passe cette
Il y a eu deux étapes. Il y a eu mon apprentissage pendant 3 ans.
D'accord.
3 ans.
Et après, on s'est retrouvé à Enghien-les-Bains, au casino, au Duc d'Enghien, où Michel Kyrever était conseiller technique. Et donc, il m'avait pris comme chef.
Je ne savais pas que tu l'avais recroisé plus tard, à l'époque.
C'était un chef important. Hein, Michel Kyrever, une des vraies figures des années 80, un peu des fils de la nouvelle cuisine, mais un très classique de formation. Effectivement, je crois, 2 étoiles à Liffré. Et il reprend ce qu'on a appelé le Duc d'Enghien. C'est sur le lac d'Enghien. Ce casino, c'est une adresse qui va avoir une très très belle cote dans les années 80. Et je pense, dans mes souvenirs sûrement, qu'il va quitter ensuite pour diriger les cuisines du Jules Verne sur la Tour Eiffel. Donc c'est un beau parcours, mais je suis à peu près sûr qu'il va tenir un temps les cuisines du Jules Verne.
Tu connais mieux le sujet que moi, c'est pour ça que tu es là.
Peut-être, j'ai pas suivi cet épisode.
Vous étiez déjà parti, vous.
Ouais,
mais en tout cas, le Duc d'Enghien, c'est 2 étoiles très vite.
Ouais,
très belle adresse.
Ouais. On se connaissait très bien, quoi. Il m'a totalement formé. Donc, quand on lui a proposé de prendre les cuisines du casino d'Enghien, donc il m'a appelé tout de suite. Et puis, il y avait une harmonie entre nous qui.
Quand vous rentrez en apprentissage, on est à quelle époque? Fin des années 70, début des années 80?
On est en juillet, on est le 13 juillet 1971.
D'accord,
ça c'est le début de ton apprentissage.
Alors c'est quoi un apprentissage en juillet 71? On parle à peine encore de nouvelle cuisine chez Michel Kyrever.
On commence à faire une cuisine un petit peu, sauce allégée, des cuissons courtes, des harmonies un petit peu insolites. Et puis, Michel Kyrever, grand rôtisseur, grand saucier. Donc, on apprenait à travailler. Quoi.
Donc la rôtisserie, ça t'accompagne. Hein. Ça vient de ta grand-mère.
Ouais.
Michel enfonce le clou. Puis après, on va voir, ça va continuer jusqu'à ce fameux virage dans les années 2000.
Ouais.
Mais ça vient aussi de là.
Ouais.
Qu'est-ce que tu retiens de cet apprentissage de ces 3 premières années?
Beaucoup de choses. Ouais. C'était une école très très intéressante, énormément de rigueur, la beauté du geste, les assaisonnements, les produits.
Ouais.
L'achat des produits, toujours.
Il y a un vrai engagement sur le sourcing, déjà.
Ouais. Il était vraiment très rigoureux là-dessus. Et puis, bah, l'esprit de la maison, qui était une maison quand même un peu familiale. Moi, je me suis beaucoup plu pendant ces trois années, m'ont beaucoup plu. C'est ma base de tous les jours.
De formation, bien
encore,
sûr.
Encore aujourd'hui, toujours aujourd'hui, c'est ça. J'y pense, quoi.
C'est là que t'apprends les classiques.
Ah ben ouais. Non, c'est quand vous avez la chance de commencer une carrière avec un maître comme lui, c'est fabuleux.
Ces rencontres, ça joue beaucoup, hein, le parcours d'une vie, ça dépend des rencontres.
Ouais. Non, mais on va voir aussi comment la flamme chez vous est importante, et la cuisson, notamment quand on abordera le chapitre des légumes. Mais souvent, quand on interviewe comme ça un chef, il va nous parler comment il a appris une recette, comment il a même appris une sauce. Mais comment on apprend la cuisson, la flamme? Comment on apprend à la doser? C'est beaucoup plus compliqué. Parce que nous, on a du mal à l'appréhender. Alors que quand on nous dit, finalement, j'ai appris à faire une chantilly, il y a une technique, il y a un geste, il y a même un peu plus. Mais la flamme.
Le feu, c'est une école qui est effectivement... je dirais que c'est on l'a en nous. C'est enfin moi quand je cuis quelque chose, quand je mets quelque chose au four, je dirais presque que je rentre dans le produit, quoi. Hein, parce que je l'ai visualisé, j'ai vu sa forme, son épaisseur, sa grosseur. Donc j'imagine déjà un petit peu la puissance du feu rentrer à l'intérieur. Bon, faut déjà c'est un peu comme un couteau ou un vélo, quoi. C'est, il faut bien connaître son four.
Faut maîtriser la flamme.
Donc la température, bien jouer avec, pas hésiter à prendre la température du four avec la main, passer la main dans le four pour ressentir un petit peu ce qui se passe. Ouais. Donc le fait d'avoir le coup de feu sur la main comme ça, ça donne énormément d'informations. Après, quand tu vas mettre ta volaille au four,
c'est de l'expérience, donc
c'est impressionnant.
Ça acquiert à ce moment-là déjà, et qui se construit.
Beaucoup de chefs, mais si aujourd'hui, espèce de seringue à température, moi j'ai vu beaucoup de chefs me raconter la cuisson d'un simple entrecôte avec leurs doigts. Ils mettent leurs doigts rapidement sur la viande et ils savent si elle est à point saignante, juste à l'appréhension, comme vous dites, de la chaleur. Ouais. Et ça, j'imagine qu'il a fallu peut-être beaucoup se brûler pour en arriver à avoir cette sensation et cette sensibilité.
T'as la main qui devient une sorte de résistance, quoi. Tu vois,
sonde. Hein, voilà, c'est ça.
C'est comme quand tu travailles dans la cheminée, si tu veux que tu passes ta main au-dessus de la braise et tu vas avoir tout de suite, ça va te donner une information si tu peux y aller ou tu attends un petit peu, tu vois. Pour éviter la brûlure sur le produit, quoi.
La suite de ton apprentissage, alors après, ça se passe où? 1976, tu commences à travailler à la chaumière à Reims, c'est ça?
Alors, 76, donc je vais chez les Boyer, parce que c'était le père et le fils, Gaston et Gérard. Et là, une fois de plus, je découvre encore une maison très familiale, où les deux sont là en permanence. Tu vois, ça aussi, c'était important.
Ça te marque. Donc ça explique aussi beaucoup de choses aujourd'hui.
Ouais, comme chez Kerever. Si tu veux, on avait un véritable échange avec eux. Et puis, c'était deux écoles. Donc, le Gaston, le papa, et Gérard, le fils. Donc, il y avait deux cuisines qui étaient assez intéressantes. Avec le père, on apprenait à faire une terrine. Et avec le fils, on apprenait à faire un feuilleté d'escargot. Tu vois, c'est... Et puis, j'ai beaucoup aimé parce qu'une maison du cœur... où on était vraiment accueillis. C'est quand même Gérard qui est venu me chercher sur le quai de la gare à Reims quand je suis arrivé de ma Bretagne, quoi. Tu vois, c'est touchant et t'oublies pas.
Ouais. Qu'est-ce que t'apprends de cette expérience plus que de la précédente, ou en quoi elle est complémentaire, sans jugement de l'une qui est mieux que l'autre?
Bien sûr. Non, c'est complémentaire. On est également dans une cuisine qui est en pleine évolution. Hein, donc là, on grimpe un petit peu. 76, 77. Donc c'est une cuisine qui a énormément de, je dirais, qui est très organisée. Hein, c'est très précis. Tout est assez millimétré. Je me souviens donc de ce petit feuilleté d'escargot, d'une salade d'artichauts, céleri, dés de foie gras et dés de langoustes, des langoustines poêlées au noyer prat. Ouais. Tu vois, on est dans une cuisine qui c'est pas l'opposé de ce que faisait Kerever, mais
c'est une autre approche.
C'est autre chose.
Et ça complète ton catalogue de méthodes et d'expériences. Et en 78, tu travailles ensuite à l'Arquestrat. Donc un restaurant 3 étoiles au guide Michelin à l'époque sous les ordres d'un certain Alain Sanderens, c'est ça? Est-ce que tu peux nous parler d'Alain? Ah, Sanderens.
Bah oui, donc
personnage là, qui a compté dans ta carrière.
Ouais, ouais. Donc là, effectivement, c'est une autre aventure.
C'est Paris déjà.
Oui.
Qu'est-ce que ça fait un jeune provincial qui est même un jeune de la campagne, parce que
la guerre,
c'est plutôt la campagne, puis après Reims, Enghien, d'accord, mais c'est les lointains environs de Paris. Quand on débarque comme ça à Paris, au cœur de Paris, j'allais presque dire au cœur du pouvoir, on est dans le 7e arrondissement, les assemblées nationales est toute près.
Ouais, ça fait peur.
Ça fait peur. Hein.
Ça fait peur parce que faut se loger, toi, ta voiture, tu sais pas où la mettre. Enfin, soit c'est plus.
Vraie rupture. Hein.
Ouais, c'est plus la petite ville de Reims. Tu vois, où j'habitais dans un endroit tranquille et tout, là ça bouge, et puis surtout ici, quoi. Bon, parce que c'était ici, hein,
c'est le détail, qui est pas un détail d'ailleurs, ça, je l'ai précisé à nos auditeurs, que l'Arcestrade, c'est là où on est aujourd'hui, qui a repris sans spoiler la suite et qui est devenu l'Arpège.
Exactement, et donc
ouais, c'est arrivé à Paris,
j'arrive dans ce tout petit restaurant, parce que c'est toujours petit, hein, et la cuisine était toute petite et tout, et puis je découvre une cuisine là vraiment d'une grande créativité.
3 étoiles hein, déjà à l'époque.
Non,
pas encore.
Il va l'avoir.
Ouais,
mais il l'a pas encore.
Non. Okay. Non. Et puis des harmonies un peu insolites, le chef nous demande de faire plein d'essais, on n'arrête pas. Il y a un cahier de cuisine qui est complètement fou, quoi.
Parle-nous d'Alain Sanderens. Quel chef il était? Il est plus de ce monde. Et en quoi il t'a marqué?
Moi, il m'a marqué parce qu'il adorait une chose, c'est nous déstabiliser sans arrêt. Il fallait toujours qu'on l'étonne, parce que tout le monde avait le droit à la parole. Hein, donc on pouvait créer un plat et puis lui dire chef, j'aimerais bien que vous faire goûter ça, et ça c'est pour moi c'était nouveau.
Il libère l'élan créatif, lui.
Bah oui, tout à fait. Donc il aimait cette notion de nous inviter comme ça à chercher.
Ouais.
Et je me souviens d'une recette. C'était un dessert d'ailleurs que j'avais fait. C'était une tarte aux figues à la cannelle. Mmh. Et donc il avait beaucoup aimé, et donc il l'avait mise à la carte.
Ben oui.
Il l'avait mise à la carte. Et puis bon, on avait une très bonne relation. Hein. Moi, je me suis entendu avec lui, mais vraiment d'une manière, c'était comme un grand frère, quoi.
C'est lui qui t'a choisi ou c'est toi qui l'as choisi au début? Comment ça s'est passé?
Non, je lui ai écrit.
D'accord.
Je lui ai écrit parce que c'était la période où on parlait beaucoup de lui sur Paris. Ouais. Donc moi, j'étais à Reims chez Boyer.
Ouais.
Hein, donc j'avais demandé à Gérard Boyer, j'avais dit, comme ils se connaissent tous, j'aimerais bien aller chez son Reims après. Ouais. Et donc ils s'étaient appelés tous les deux, puis ça avait marché, quoi. Et
qu'est-ce qui t'a attiré justement dans sa cuisine à ce moment-là?
Justement, toute cette créativité.
Ouais, c'est ça, c'est déjà la créativité qui répond avec son côté artistique ultra créatif qu'on va découvrir, qu'on est déjà en train de découvrir.
Tu
sens que c'est le bon chef pour continuer à te faire grandir.
Oui, absolument. Ouais. Et puis j'aime sa façon de nous parler, j'aime sa façon de nous faire la cuisine. C'est... je me rappelle sa petite salade de homard avec un petit salpicon de canard et une chiffonnade de mangue. Bon, tu vois, c'est une trilogie qui est un peu
avec sa femme aussi, son épouse Évancia Sanderens, qui était quelqu'un qui, comme souvent les épouses de chefs à l'époque, étaient souvent dans l'ombre, mais elles avaient plus que leur place dans les cuisines et dans les restaurants.
Tout passait par elle. Hein,
elle était en salle, c'est ça? Elle était sommelière
Elle était un peu partout. Mais souvent, aujourd'hui, l'époque aime à dire que les femmes ont été invisibilisées dans les cuisines. Je dis, c'est mal connaître ce qu'était la restauration historique dans les années 60-70. Il y avait toujours derrière un grand chef une femme, et beaucoup plus importante et beaucoup plus puissante que vous ne vouliez bien le croire. C'est même assez insultant de dire qu'elles ont été invisibilisées.
Et pas si derrière que ça, finalement.
En tout cas, pas dans le cas d'Évancia. D'ailleurs, je crois qu'ils avaient signé. Et leur couple était intéressant, parce qu'ils avaient signé un livre dans une collection qui était une collection assez célèbre, qui est toujours célèbre. Je crois que c'était chez Robert Laffont. On demandait aux grands chefs de l'époque de faire leurs recettes. Et Alain Sanderens avait demandé à signer avec sa femme.
Ouais.
C'est Alain et Évancia Sanderens qui signent le livre. Ils avaient une approche souvent très différente de ce qui se faisait à l'époque. On était même dans un au-delà de nouvelle cuisine. C'était vraiment une libération d'audace.
Oui. Non, c'est. Il avait surtout une grande qualité, c'est qu'il nous faisait confiance.
Et ça, de la liberté.
Et ça, c'est
important pour la créativité.
c'est important, tu sais, quand moi, je sais pas, à l'époque, j'avais un peu 20 ans, un peu plus, donc ça donne envie de faire la cuisine, ça donne envie d'arriver le matin, tu vois, il y a plus d'interdit, quoi.
Ouais.
On travaille en liberté.
Ouais.
Il nous permettait de travailler en liberté.
La liberté, la créativité, ça, c'est vraiment des choses importantes.
Ouais.
Ensuite, t'as commencé à en parler au Duc d'Enghien. C'est ça.
Ouais.
Comment ça se passe? Tu peux nous raconter là.
Bah, Duc d'Enghien, Michel Kerrever avait été approché par le propriétaire du casino d'Enghien.
D'accord.
Pierre Ducis, pour faire un restaurant gastronomique. Dans le casino. Dans le casino.
Donc c'est avec le chef Michel Kerrever. Moi je pensais que c'était, j'ai confondu, c'est pas du tout avec Alain Sander, hein, cela, c'est,
non.
il a aucun lien avec le.
Non, Kerrever avait toujours son auberge à Liffré, deux étoiles, il faisait du conseil avant l'heure.
Très
présent, hein, parce que pour y être allé à l'époque, de temps en temps, je peux vous dire qu'on le voyait. C'est pas le conseil, je signe la carte et je me barre.
Et donc toi, tu deviens le chef exécutif, hein, c'est-à-dire que, voilà, comme on dit aujourd'hui d'ailleurs.
Ouais.
C'est lui qui signe le contrat et il te met dans le restaurant pour aller exécuter sa cuisine.
Exactement. Et donc, au départ, donc c'est une aventure qui a duré 4 ans. Et
donc, c'est de 80 à 84.
84, ouais. Et donc, la première année, donc, c'était que des recettes de Michel. Et puis, la deuxième année, il m'a dit, tiens, vas-y, tu vas commencer un peu à faire ta cuisine quand même. Bon, allez, fais-moi goûter 2 ou 3 plats. Comme ça, on mettra sur la carte, recette. Voilà.
C'est la première fois que t'es chef.
Ouais.
Première ligne.
Oui, absolument. Ouais. Et donc, c'est une école, pareil, formidable, quoi. Parce que bon, moi, j'étais ravi d'avoir quelques plats comme ça sur le menu. Et puis, bon, comme c'est moi qui étais en cuisine, donc les clients aimaient bien prendre mes plats.
Puis ça se passe bien parce qu'il y a la reconnaissance du guide rouge assez vite.
2 étoiles. Hein.
2 étoiles.
Ouais. On a une étoile en 82 et en 83.
Qui fait de toi, je crois, le plus jeune 2 étoiles je crois. C'est ça.
Ouais.
Donc là, on sent le talent et le potentiel de cette époque-là. Qu'est-ce que ça te fait d'ailleurs, toi, d'avoir des étoiles à ce moment-là? Est-ce que tu es déjà, comme beaucoup de chefs, et toujours aujourd'hui, dans cette quête et cette obsession du Michelin ou pas du tout?
Bah, ça reste quand même quelque chose de formidable, hein. Je crois qu'il y a pas tous les chefs ont envie d'avoir une étoile, quoi. Hein, et donc
on a qui les rendent, hein. Alain, c'était son cas,
c'est normal. Je pense que quand tu cherches comme ça le sens et l'excellence, il faut qu'on te récompense un peu pour ça, faut que ça réponde à l'écho. Donc, une des vertus de Michelin, tout de même, quand même, c'est de pouvoir offrir un écho à cette quête.
Oui.
Quand tu cherches le meilleur, t'aimerais bien qu'on te le dise, oui, tu es sur la bonne voie, c'est important. C'est pas simplement une bricole.
C'est le signe, t'as la reconnaissance de tes pairs, enfin, de tes pairs et de ta profession.
Ouais, ouais.
Donc ça prouve que t'es dans la bonne direction et qu'au contraire, ça t'encourage à continuer ce style et à créer.
Oui, non, puis le Michelin, c'est un booster.
Ouais.
Hein, mes étoiles m'ont permis d'aller plus loin dans ma création, d'aller plus loin dans le travail. C'est formidable. Hein.
Ça reste nécessaire, c'est bien de le rappeler. Les étapes après, avant d'arriver à l'Arpège, 84, tu pars à Bruxelles, c'est ça?
Oui.
Tu peux nous raconter? Emmanuel ne le savait pas.
Ouais, Bruxelles, j'ai fait deux petites années à Bruxelles.
International.
C'est un restaurant qui s'appelait le Carlton, qui appartenait à un monsieur formidable, Jean Mélian, qui était venu me voir à Enghien, qui était venu un jour goûter ma cuisine et puis qui l'avait vraiment beaucoup aimé. Et donc, il m'avait proposé d'aller ouvrir ce Carlton. Et donc, j'ai passé 2 belles années là-bas. Où là, j'étais en revanche, j'étais vraiment tout, je faisais vraiment ma cuisine, quoi.
Là, t'es chef. Il y a plus de chef consultant. Pour le coup, vraiment la liberté de faire ce que tu veux.
Ouais,
et ça se passe bien aussi, parce que je crois que c'est un établissement qui est assez rapidement étoilé, 2 étoiles aussi.
Oui.
Est-ce qu'il y a déjà un style Alain Passard à ce moment-là?
Oh, je sais pas si. Je crois que
forcément.
Moi, je pense que on devient vraiment cuisinier avec le temps, quoi. Bon, ça dépend. Ouais. Oui, bah on.
Je t'ai entendu dire dans une interview qu'on devenait vraiment cuisinier à 40 ans, voire même peut-être 50 ans. Mais quand même, ça commence.
Bah, ouais, moi, c'est
là, t'es jeune encore, hein. T'as quel âge? T'as 25, 26 ans, un truc comme ça.
Ouais. Donc, tu vois, non.
C'est loin des 40 ans, mais déjà.
C'est quand même des années où tu te cherches encore, moi. Je pense que je me suis encore pas débarrassé de ce que Alain Sandrins m'a appris, ouais. De ce que Gérard Boyer m'a appris et Michel Kerrévert. Ça reste toujours. Après, tu trouves ton style, je sais pas, moi, aujourd'hui, je suis tellement en accord avec la nature que bon.
À ce moment-là, c'est déjà le cas ou pas encore? Le lien, la nature au produit, ça vient vraiment après?
C'est après, ouais.
Mais en revanche, même si on n'a pas vraiment son style, quand pour la première fois comme ça, on est le chef, c'est vraiment nous qui signons la carte, ouais. Est-ce qu'on n'est pas un peu fébrile de se dire, bon, maintenant, c'est à moi de l'écrire, entrée, plat, dessert, sans peut-être imprégner, imprimer mon style, faut bien que je la sorte et va bien falloir que je raconte quelque chose. On doit quand même avoir un peu les chocottes. Parce qu'on l'a attendu, hein. Oui. Malgré tout, vous aviez déjà, les seconds, on les connaît, surtout la critique les connaît. Ouais. Il se dit, ça, c'est son adresse, ils vont du coup, t'es de l'œil quand même.
Ouais, non, mais c'est vrai que c'est,
en même temps. La première carte.
Mais en même temps, il y a un tel enthousiasme. On est tellement heureux, quoi, de dire, voilà, ça y est, c'est mes plats, c'est ma cuisine. Il y a un style, il n'y en a pas, on ne sait pas, mais en tous les cas, on y va, quoi.
Ouais, et puis ça a l'air de plaire.
Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a un moment, il faut mettre les mains dans la casserole, puis y aller, quoi.
Et ça plaît, le restaurant. Ouais. Il y a la reconnaissance du Michelin, mais maintenant, il y a la reconnaissance des convives. Les restaurants sont pleins.
Oui.
A priori, je n'étais pas là.
Ouais, mais bon, quand vous avez une école comme la mienne, ça porte, hein, quand même. J'ai quand même appris avec des grands.
C'est pour ça qu'on a pris le temps de revenir dessus. Tu as des bases très, très solides, quoi.
Ouais.
Donc voilà, on arrive à la fin de ce premier chapitre. Dans le prochain chapitre, je vous propose de parler de l'ouverture de l'Arpège où nous sommes aujourd'hui, donc ton propre restaurant, une étape évidemment décisive de ta carrière qui te hissera au sommet de la gastronomie. À très vite.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est important pour nous aider à gagner de la visibilité. Merci et à très bientôt.